Bienvenue dans Vécu Autrement, une série de podcasts réalisés par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre de l'événement de la rentrée, les universités d'été de l'économie de demain.
Je me suis toujours dit que c'était hyper important d'incarner le changement que tu veux voir.
Je suis contente de voir qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui se posent ces questions-là et qui essaient d'y répondre pour de vrai.
Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les témoignages d'une sélection d'intervenants de cet événement. Avec Vécu Autrement, nous vous proposons de ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais d'agir aujourd'hui autrement.
Bonjour, je m'appelle Antoine Lemarchand, je suis le dirigeant de Nature Découverte, j'ai 48 ans, 3 enfants et je dirige cette entreprise familiale créée par mes parents il y a 30 ans, qui a une centaine de magasins, 1200 personnes, mais aussi des choses moins connues comme la Fondation, qui a 25 ans, une fondation qui œuvre pour la biodiversité. Et puis, voilà, nous sommes basés à Versailles, dans un beau siège en bois qui a un an, à côté d'une petite ferme en permaculture que nous avons créée.
La question.
Comment améliorer son empreinte écologique en réduisant son empreinte carbone?
Le vécu.
Alors, je vais vous parler de comment on améliore notre empreinte carbone. C'était un sujet qui était méconnu jusqu'en 2007 chez nous, année où on a décidé d'avoir une comptable carbone à plein temps. Et son travail, c'est de comptabiliser toutes nos émissions de carbone et d'en faire des budgets et des reportings pour que chacun des managers puisse avoir une double comptabilité en euros et en carbone. C'est-à-dire, concrètement, le directeur marketing, on lui disait en début d'année, voilà ton budget en euros pour l'année, mais également, voilà ton budget en carbone, en tenant compte, évidemment, de baisses de nos émissions, d'objectifs. Et en fonction de ces baisses d'objectifs, on arrivait à donner des primes, ou pas, à nos managers. Là, aujourd'hui, concrètement, on a toujours cette comptabilité qui est au trimestre, donc c'est très, très suivi, qui englobe le scope 1, 2 et 3. Mais le 3 n'est pas complet, c'est-à-dire que comme on a 680 fournisseurs et à peu près 5000 produits, il est beaucoup plus difficile de mesurer l'empreinte carbone de tous les produits que nous vendons, puisque nous ne sommes pas des fabricants. Mais en revanche, on mesure tout le transport amont, aval de ces produits, tout le transport également nécessaire au déplacement de nos équipes, ainsi que tout ce qui est publication, emballage, déchets que notre entreprise produit. Ça, c'est le scope 3.
Premier apprentissage. Mesurer précisément ses émissions CO2 et se fixer des objectifs ambitieux.
La première grande mesure qu'on a faite par rapport à la réduction du CO2, c'est déjà d'avoir cette comptabilité au trimestre. Donc c'est vraiment un suivi très précis de nos émissions de CO2 depuis 13 ans, qui nous permet d'avoir ce reporting et de connaître les efforts des uns et des autres, que ce soit sur le scope 1, 2 et 3. C'est la deuxième, c'est de se fixer des objectifs ambitieux. Une petite chose qui manifeste, enfin qui motive en tout cas les gens, c'est notamment que toute l'équipe de direction a une prime annuelle qui correspond à un tiers de leur prime variable sur notre bilan CO2. Depuis plusieurs années, on se fixe comme objectif d'avoir au moins 5 points d'écart entre la croissance de notre chiffre d'affaires et la croissance de nos émissions de CO2. Et qu'on réussit plutôt bien, donc l'objectif est peut-être pas encore assez ambitieux puisqu'on a fait 18 points d'écart par exemple en 2019 entre notre croissance et les deux chiffres et de CO2. C'est souvent voilà, une question quand on parle de politique CO2, c'est toujours intéressant de savoir si la paye des dirigeants est indexée au CO2, en tout cas chez Nature Découverte elle l'est.
Deuxième apprentissage.
Mobiliser en interne et réaliser des investissements structurants.
On met également un réseau vert dans tous nos magasins, mais également dans nos services, au siège comme à l'entrepôt, qui permet de sensibiliser justement les équipes à tout ce qu'il faut faire pour diminuer notre impact CO2 sur l'électricité, le gaz, les déchets. Quand on veut faire du changement, il faut des ambassadeurs dans une entreprise. Tout ne peut pas être fait par la direction, et donc ces ambassadeurs, ces réseaux verts, œuvrent au quotidien pour justement que les émissions de nos magasins, qui est notre principal outil de travail, baissent, mais également à l'entrepôt. Donc ce sont eux, par exemple, qui nous ont permis de convertir les magasins, ça a eu un énorme impact, à du relamping. Donc on a refait toutes les lampes, tout l'éclairage de nos magasins, qui a un gros budget financier, Parce que ça a été un programme à peu près de 400 000 euros sur 3 ans. De refaire tout l'éclairage de nos magasins en LED, et ce qui permet de dégager beaucoup moins de CO2, de consommer moins d'électricité, mais c'est un investissement conséquent au démarrage. Aujourd'hui, c'est un relamping permet du jour au lendemain de baisser de 20% nos émissions de CO2, mais encore une fois, c'est un investissement. Nos équipes entrepôts, par exemple, ce qui a beaucoup baissé, c'est par exemple de passer au biogaz. Parce que tout le chauffage de l'entrepôt était au gaz classique, hein, conventionnel. Le biogaz, c'est de la méthanisation de déchets. Et bien ça permet de baisser à peu près 30% du jour au lendemain nos émissions de CO2 liées au chauffage d'une grosse unité qui est l'entrepôt de Trappe. Ensuite, on a fait encore un gros investissement pour baisser nos bilans, c'est qu'on a changé de siège pour se rapprocher d'une gare. Donc on a 140 personnes qui travaillent au siège, qui prenaient tout le temps leur voiture pour venir travailler, et même si c'était des hybrides, émettaient quand même pas mal de CO2, on avait 80% des gens qui venaient avec leur voiture. Là aujourd'hui, on a complètement inversé la tendance, c'est que 20% pour venir travailler au siège de Versailles, qui est près d'une gare et qui permet aux gens de prendre que des transports en commun ou quasiment que des transports en commun, et notamment aussi dans un siège qui est complètement écologique, en bois, avec récupération de pluie, panneaux solaires, et donc qui permet de réduire notre bilan carbone à l'utilisation du siège, mais également à la construction, puisque notre siège émet 10 fois moins de CO2 par mètre carré à sa construction qu'un siège conventionnel. Voilà. Et puis le dernier point, c'est une fondation, le dernier gros driver pour changer et infléchir ces émissions de CO2, c'est qu'on a une fondation qui fait du mécénat. Elle vit de l'équivalent à peu près de 15% de notre résultat net chaque année. Elle finance beaucoup de projets sur la biodiversité, et de plus en plus on finance des projets et biodiversité et réduction du CO2. Donc typiquement, c'est des projets qui permettent d'aider des forêts à gagner en biodiversité. Parce que des forêts, aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont plutôt des plantations, mono-espèces, plutôt que des forêts de diverses essences. On va financer beaucoup de projets aussi autour de la mangrove, des projets autour des océans. Les océans, par exemple, captent un quart du CO2 émis par l'homme. Il faut passer beaucoup de temps sur les océans. Non seulement elles captent un quart, mais elles dégagent, les microplanctons produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons sur la planète. Donc typiquement, voilà, on va financer avec notre fondation des projets liés aux océans. Voilà, donc toujours essayer de concilier biodiversité, mais en même temps aussi préservation de nos émissions.
Troisième apprentissage.
Faire preuve de pédagogie pour sensibiliser les clients.
Dans les autres mesures de réduction de CO2, ce qu'on ne mesure pas, nous, dans notre bilan, c'est le dégagement de CO2 de nos clients. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est en revanche de financer la pédagogie pour sensibiliser les gens aux gaz à effet de serre. Comprendre que, par exemple, en France, un Français, son bilan moyen, c'est à peu près 12 kilos par an d'équivalent CO2. Mais par exemple, prendre un Paris-New York, vous augmentez votre bilan tout de suite de 2,5 à 3 kilos uniquement en prenant ce long courrier. Donc vous changez sensiblement votre bilan en prenant l'avion. Donc on passe pas mal de temps, comme maintenant on a à peu près 1 million de personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, en newsletter ou autre. On a l'habitude de dire que nos magasins, c'est aussi un média. Donc on n'est pas là uniquement pour vendre. Les gens achètent chez nous en moyenne 2 à 3 fois par an, bon, c'est pas beaucoup. Mais par contre, ils viennent plus souvent nous visiter, lire un bouquin, s'asseoir, prendre un thé et autres. Et on aime beaucoup passer du temps aussi à leur parler de nos associations, mais surtout aussi de leur parler du CO2. Pourquoi ? Parce que le dérèglement climatique, c'est le combat numéro un, c'est la certitude qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir nos fameux degrés de température en plus dans les années à venir, et qu'aujourd'hui, notre trajectoire de réduction est encore très très molle, et pour avoir une trajectoire forte, il faut que tout le monde soit mobilisé. Un des enjeux quand on fait la pédagogie à nos clients et quand on change les critères de nos produits de provenance ou de matériaux ou autres, c'est est-ce que le client va suivre en termes d'achat ? Est-ce que le prix qui est un peu plus élevé, si on fait par exemple des doudous en coton bio, ce qui est le cas, on a décidé du jour au lendemain de passer toutes nos gammes en coton bio, ou le fait d'acheter par exemple tous nos consommables qui sont des produits bio, bah, forcément ça coûte un peu plus cher. Est-ce que le client va suivre ? Alors souvent on a des sondages qui nous disent oui bien sûr on va suivre, il n'y a pas de problème. Puis après la réalité c'est que la sensibilité au prix est très forte. Beaucoup en France, on nous parle beaucoup de pouvoir d'achat, de réduction de prix barré, de promo. Et donc nous, on pense qu'en fait la meilleure manière de faire que le client accepte de payer un peu plus cher, c'est faire la pédagogie, c'est le tirer vers le haut, c'est aussi vendre des livres. Nous, on a quasiment 20% de notre chiffre d'affaires, c'est du livre, et c'est souvent du livre pédagogique pour justement que le client ait l'éducation et se disent qu'il faut acheter moins mais mieux, qu'il faut faire des choix aussi, pas acheter forcément tout. Je pense que l'épisode du Covid permet à tout le monde de se poser ces questions, de se dire ce virus mondial, est-ce qu'il remet un peu en cause ma manière de vivre ? Est-ce que j'ai besoin de consommer absolument pour exister ? Et c'est plutôt une bonne chose.
L'autre question.
La question qui se pose, et que je me pose en tout cas aujourd'hui, c'est déjà comment arriver à compléter ce scope 3 de tous ces produits dont nous n'arrivons pas forcément à mesurer leur empreinte carbone. Quand vous avez 680 fournisseurs, c'est très complexe d'aller voir chacun des fournisseurs, de leur dire calcule-moi l'émission à la production, mais aussi à l'utilisation des produits que tu me vends. Tant vous dire que beaucoup de ces fournisseurs, il y a des petites PME qui ne peuvent pas se payer à un comptable CO2 qui fait tout ce travail avec un référentiel qui changera d'un fournisseur à l'autre, donc c'est extrêmement compliqué. Donc il y a plein de méthodes aujourd'hui, des méthodes par exemple de conversion du prix des produits vers un coût CO2 qui est assez imparfaite. Donc ça, c'est déjà la première question, c'est comment on complète le scope 3 en plus des transports amont, aval que nous mesurons déjà. Et puis la deuxième grande question, c'est finalement, nous on n'a pas envie de compenser, puisque le mot compenser, compenser, ça induit souvent quelque chose d'assez péjoratif. Quand je fais un régime, je compense avec parfois un bon pain au chocolat ou un bon gâteau. Ou c'est l'effet rebond, par exemple des gens qui changent leur énergie en plus renouvelable et qui mettent toutes les lumières de leur maison parce qu'ils disent « Ah bah c'est, maintenant ça émet moins de CO2, donc je vais faire le château de Versailles avec ma maison. » Donc on préfère parler de contribution. Donc comment fait-on pour les 6700 tonnes aujourd'hui que nous émettons sur les scopes que nous mesurons, si nous les convertissons en euros, aujourd'hui le prix de la tonne est à peu près à 25 euros, certains disent que c'est trop bas, mais en tout cas c'est le prix du marché. Et bien si je fais ça, on arrive à 180 000 euros. Qu'est-ce que je fais de ces 180 000 euros ? Dans quoi j'investis ? Et donc dans les questions, c'est comment je répartis ? On sait à peu près ce qu'on a envie de faire, mais comment on va répartir en pourcentage ? On veut répartir, et la première chose c'est faire toujours cette pédagogie auprès de nos clients pour réduire leur empreinte CO2. Donc toujours, vous avez aussi un rôle, il n'y a pas que les entreprises ou le président Macron qui doit faire des efforts, vous aussi. La deuxième chose, c'est financer, donner une partie de cet argent à la fondation pour qu'elle finance les projets dont je vous parlais, mangrove, océan, forêt, qui sont des puits de carbone, mais en tout cas c'est toujours orientation puits de carbone. La troisième chose, c'est d'améliorer constamment notre bilan carbone et savoir si par exemple les 5 points d'écart, c'est une bonne stratégie, est-ce que c'est suffisant ? Donc on veut travailler avec des grands du carbone, que sont Carbone 4 ou autres, pour encore et toujours améliorer ce bilan carbone et surtout les trajectoires que nous pouvons prendre pour être neutre totalement en 2030. Comme nous nous sommes engagés à le faire, à l'instar de toutes les Bicorp, puisque nous sommes la première Bicorp en France, et il faut que nous soyons neutres en 2030. Donc ça peut paraître loin, mais c'est 10 ans où il va falloir qu'on ait une stratégie très précise pour ça. Voilà, donc concrètement, voilà les questions qu'on se pose. On sait à peu près ce que nous voulons financer, mais on ne sait pas encore, pour prendre des pourcentages ou des camemberts, comment répartir les choses.
Vécu autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns.
Comme on fait partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'était intéressant de rencontrer des acteurs un peu plus grands et un peu plus gros que nous, et puis surtout de s'informer sur toute la pratique de tout ce qui existe autour de l'économie sociale et solidaire. Donc on a une association sur plusieurs volets, donc le volet artistique et culturel dans les quartiers prioritaires, on est sur le volet culinaire, donc là comme on monte un chantier d'insertion, donc je pense qu'on a notre place aujourd'hui.
Alors nous on aide les entreprises à se développer sur LinkedIn, aussi bien en communication, la prospection, à mettre en avant leurs outils, comment communiquer. On décroche quelques petites idées quand même pour savoir comment les autres réagissent, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en pratique, donc du coup quel impact social, environnemental, écologique pour les années à venir.
Il y a pas mal d'entreprises qui ont cette volonté-là, mais on est un petit peu seul parfois, ou on est peut-être un petit peu isolé dans notre secteur. Et donc maintenant, quand on veut rentrer dans le concret, par quoi on doit commencer, quelles sont les pistes les plus faciles à prendre, et puis profite de l'expérience peut-être d'autres entrepreneurs en fait.